enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Je vais aborder avec vous un sujet qui est toujours le sujet un tout petit peu gênant dans les églises, parfois en France, au moment du culte. Et vous avez tout de suite compris que je vais parler du sujet des offrandes, du sujet des finances. C'est un sujet qui gêne dans les moments de culte en France, mais moi je voudrais vous dire, vous savez, je viens aussi, j'ai grandi aussi dans un pays catholique avec une influence catholique. Alors, l'argent est toujours présent au cœur de nos vies tous les jours, mais on entretient avec l'argent, avec les richesses, une relation un peu ambiguë. Moi-même, si vous voulez, j'ai grandi avec un côté de ma famille qui était catholique. Donc on me disait, quand tu vas à la messe, tu mets ta pièce dans la quête, à la corbeille. Je mettais la pièce et j'avais un grand-père qui disait, de toute façon, ces curés, ils s'en mettent plein les poches et tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est essayer de nous rouler. Puis on me racontait des histoires de pauvres veuves qui avaient été dépouillées par des curés abusifs. Et moi, j'étais là, je leur donne, mais franchement, c'est des salauds qui essaient de nous abuser. Et si vous voulez, c'est typiquement français dans ma façon de grandir. Donc, je vous parle ici à partir d'un terrain typiquement français dans lequel on verse nos offrandes le moins possible pour essayer de faire rouler le moins possible en maudissant les gens qui reçoivent nos offrandes parce qu'on est sûr qu'ils essayent de nous tromper. Donc, j'ai vraiment grandi avec ça dans mon cœur pendant si longtemps jusqu'à ce qu'un jour je me débarrasse de la messe et de toutes ces choses-là pour aller investir vraiment chez les anti-chrétiens, anti-croyants. Et là, en étudiant l'histoire de l'Église et tous les abus qu'il y a eu, je suis devenu rempli d'amertume et de révolte à l'égard du monde catholique, et donc de cette question d'argent, ce qui fait que quand je suis devenu chrétien, j'entretenais avec l'argent une relation un peu bizarre. Comme tout le monde, j'en ai besoin, et comme tous les gens de ma génération à ce moment-là, j'ai aussi grandi dans une famille qui s'est embourgeoisée. L'argent était vraiment pour moi le symbole de la superficialité, le symbole du bonheur semblant. On fait semblant d'être heureux parce qu'on a de l'argent. Alors mes parents cherchaient à s'habiller de mieux en mieux. Moi, c'était de pire en pire, histoire de montrer que je me démarquais. Quand je suis devenu chrétien, j'étais sûr que Jésus était le chef des hippies et que lui-même était sûrement fauché. Et j'avais une fausse image de Jésus, une fausse relation à l'argent. Et le Seigneur a dû agir en moi pour restaurer ces choses-là et m'apprendre à voir l'argent comme lui le voit et à comprendre que l'argent fait partie totalement de l'adoration. D'ailleurs, il n'y a rien plus que le domaine de l'argent qui révèle là où est notre cœur. Et c'est ce dont je voudrais vous parler ce matin. Mais avant de le faire, je voudrais vraiment dire, je veux faire mal à quiconque ce matin. Je suis venu avec un message sur l'argent, mais un message gentil. D'accord ? Donc n'ayez pas peur, ne serrez pas vos fesses spécialement, vous pouvez être tranquille. Et je veux être là juste pour dire, je bénis Dieu pour cette église, pour les 10 ans ici, ou 9 ans, pour moi on est dans la 10e année, mais ça fait un peu plus de 9 ans que nous sommes à Montpellier. Et je bénis le Seigneur pour tout ce qui s'est fait, pour ce bâtiment, et puis pour tout ce qui s'est fait, pour les miracles qui ont eu lieu. La construction de cette église est un miracle, et je bénis Dieu parce que ça s'est accompli. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes fidèles. Vous qui êtes fidèles depuis des années à donner vos dîmes au Seigneur, je bénis Dieu pour des personnes comme vous, et sans vous, ce serait impossible que ce miracle arrive. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui ont déjà fait des offrandes exceptionnelles. À un moment donné, on a été amené plusieurs fois, quand il y avait des défis, des pas de foi à faire, ce qu'on appelait des Giving Day, Dia de Ofrenda pour notre ami Octavio, les jours des offrandes, les jours des dons comme aujourd'hui ou des mois, comme on rentre là dans un mois d'offrande spéciale. Je bénis Dieu pour ceux qui ont fait des offrandes tout à fait spéciales, presque surnaturelles, et qui ont fait des actes héroïques, donnant au-delà de ce qui était raisonnable, et qui ont vu la main de Dieu en retour. Je bénis Dieu pour les personnes comme vous, qui ont eu le courage de le faire. Je bénis le Seigneur pour les personnes qui, parmi nous, ont le don de générosité. Et il y en a. Et il y en a. Il y a des personnes, et on ne les nommera pas, tout simplement pour ne pas les embarrasser, mais il y a des personnes qui voient un besoin et qui arrivent en disant, bien, on a vu ce besoin, voilà, on fait le chèque, on veut payer nous-mêmes, on veut l'offrir, et on ne veut même pas que ce soit connu, que ce soit nous qui passion, ces choses-là. Je bénis Dieu parce que cet écran a été payé comme ça, ou ce rideau de scène, un des deux, je ne sais plus ce qui a été payé, parce que les tables qui sont dans le bar ont été payées comme ça. Et pour toutes ces choses-là, vraiment, mon cœur est rempli de reconnaissance envers le Seigneur, parce qu'il fait pour nous des choses merveilleuses. Et je le crois. Amen. Alors ce matin, on va juste partir sur ce premier message, et vous allez voir bientôt un petit reportage là-bas après qui va dire ce que vous pensez aussi de l'argent. Moi, je vous ai dit en tant que croyant ce que j'en pensais, mais vous allez voir ce que vous aussi vous en pensez. J'ai à vous tous d'avoir participé à ça. Alors, on entend toutes sortes de belles choses dedans sur la vision de l'Église. Certains ont une vision un peu plus utilitariste. Je défends mon morceau, mon secteur, etc. Puis d'autres ont une vision plus sanctifiante, j'ai besoin d'être... Oui, c'est bien de donner, parce qu'on a besoin d'être libéré, etc. Alors ce matin, j'aimerais qu'on regarde pourquoi est-ce qu'on dit que l'argent se tient au cœur de l'adoration bibliquement. Jésus nous a dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. En réalité, quand Jésus met ça, il est en train de parler de l'adoration. Seigneur, j'amène toute pensée captive de ton obéissance ce matin, et je te prie que dans ce moment, ton Esprit Saint vienne allumer nos cœurs et nous donner des cœurs purs, des cœurs d'adorateurs dans ce domaine aussi, au nom de Jésus. Amen. Dieu est la personne la plus riche de l'univers. Qui dit amen à ça? N'est-ce pas? Dieu est la personne la plus riche. C'est pour ça que Dieu n'est pas gêné avec la question de l'argent, et l'argent se tient au cœur de l'adoration, parce que l'argent montre, comme un petit peu Rebecca le dit dans le reportage, là où se tient notre cœur, là où est notre trésor, là est notre cœur, là où se tient notre cœur, là est notre trésor. Dieu est la personne la plus riche. Il nous a dit, la terre et les richesses appartiennent à l'Éternel, psaume 24, 1. Si j'avais eu faim, te le dirais-je, l'univers est à moi et tout ce qu'il renferme. Psaume 65, 11. Partout où tu es passé, la terre est fertilisée. La version Louis II dit, tes pas versent l'abondance. Ça veut dire que là où on marche, là où le Seigneur marche, l'abondance tombe de ses poches. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Quand nous donnons nos dîmes, quand nous donnons financièrement, comme ce matin, nous avons besoin de savoir que c'est Dieu qui nous donne et que nous recevons de sa main ce que nous lui offrons. Il est tellement riche qu'il nous donne. Les richesses de toutes les nations afflueront en ce lieu. Quant à ce temple, je le remplirai de gloire. C'est à moi qu'appartient tout l'argent et tout l'or. Amen. C'est à Dieu qu'appartient tout l'argent et tout l'or. Combien on a besoin de dire notre foi dans ce domaine-là? C'est à toi, Seigneur, qu'appartiennent tout l'argent et tout l'or. Nulle part dans la Bible, on verrait que Dieu soit contre les richesses. Il est la personne la plus riche de l'univers, la plus généreuse. Il donne la nourriture avec abondance. Et vous savez ce que c'est la sainteté? Qui aurait une définition simple de la sainteté? Qui peut dire ça? La sainteté, c'est... Allez, faites des essais. Il n'y a pas de réponse fausse, à votre avis. C'est pas de péché, une mise à part, la pureté, sans limite, se donner entièrement, tout pour Dieu. Alors c'est vrai. Tout ce que vous dites là est vrai. La mienne, ma définition de la sainteté, c'est ressembler à Dieu. Plus nous ressemblons à Dieu, plus nous devenons saints. Eh bien, si Dieu lui-même est la personne la plus riche et la plus généreuse du monde, je me dis, la sainteté, c'est de devenir comme Dieu. Et la Bible nous dit, dans Apocalypse 5, 12, à lui, quand on loue le Seigneur, écoutez ceci, il disait d'une voix forte, j'ai rarement entendu ce genre de louange dans l'Église, parce qu'on n'a pas intégré. Quand je vous dis, tout l'or et l'argent appartiennent à Dieu, tout le monde dit Amen. Dit Dieu est le plus riche, tout le monde dit Amen. Ça, c'est la foi théorique. La foi mangée, la foi qui est devenue réelle pour toi, ce qui est devenu chair, ce qui est devenu battement de ton cœur, ce n'est pas encore ça. Parce qu'on ne l'entend pas souvent, Apocalypse 5, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, sagesse, honneur, gloire, bénédiction et richesse. À l'agneau de Dieu, la gloire, l'honneur, la bénédiction, la richesse. C'est rare qu'on entende louer le Seigneur pour sa richesse. Et pourtant, quand on dit loue ton Dieu pour qui il est, c'est tellement rare. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas intégré. le caractère de Dieu. C'est ce El Shaddai, le Dieu tout suffisant, le Dieu d'abondance, le Dieu de fécondité. Yahvé Jiré, l'Éternel qui pourvoit avec ses moyens, sa mesure à lui. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et Jésus nous enseigne que Dieu est un Père. Et les enseignements sur votre Père sait ce dont vous avez besoin. Votre Père nourrit les oiseaux. Votre Père fait pousser tout le pain de la terre, nous dit Jésus. Et il nous enseigne ici à faire confiance à un Dieu riche, à un Dieu généreux. Je vous le dis, mes amis, on a une foi théorique dans un Dieu riche. Nous n'avons pas encore cette foi qui est devenue conviction au-dedans de nous, parce que ça va changer quelque chose. Et j'aimerais bien que nous grandissions dans une nouvelle image de notre Dieu. Tout au long de ces 2 mois, nous avons dit ce que nous voulons, c'est grandir dans l'adoration, une nouvelle image de Dieu. Clé ne connaît pas encore Dieu comme le Dieu riche. Nous ne connaissons pas encore Jésus comme l'agneau à qui revient la richesse. Nous ne connaissons pas encore le Père comme quelqu'un qui fait tout pousser en abondance, comme quelqu'un, quand il marche au milieu de nous, ses pas versent l'abondance. Et nous allons découvrir ce Dieu-là, et c'est ma prière pendant ce temps. À lui, la richesse, Apocalypse 5, 12. Maintenant, si l'argent se tient au cœur de l'adoration, il y a, on sait, un petit piège avec l'argent parfois. Et pourquoi vous ne pouvez servir Dieu et Mammon? Qui est ce Mammon? Alors, pour comprendre qui est Mammon, il faut retourner dans Ézéchiel au chapitre 28, l'origine de Satan. Ce texte d'Ézéchiel nous donne l'origine de Lucifer qui est devenu Satan. Et il prend l'exemple d'un prince qui s'appelle le prince de Tyr, qui a tellement suivi la façon de fonctionner de Satan, qu'au départ il commence à parler d'un humain qu'il appelle le prince de Tyr, et rapidement il commence à lui dire « Tu étais en Éden ». Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, tu étais le chérubin protecteur. Alors, ce chérubin protecteur, il est dit, tu t'es acquis des richesses, tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors, par ta grande sagesse, ton commerce, tu as accru tes richesses, et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toutes les pierres précieuses, tu étais le chérubin protecteur aux ailes déployées, nous continue à dire, ce passage d'Ézéchiel 28. Donc il s'agit de Lucifer, ce chérubin protecteur. Sa chute est venue, semble-t-il, à cause de l'abondance des richesses qu'il n'a pas su maîtriser. À cause de ses richesses, il est devenu orgueilleux et il s'est coupé de Dieu. Par la grandeur de ton commerce, par l'injustice de ton commerce, tu as profané les sanctuaires et je ferai sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Donc il s'agit vraiment de la chute de Lucifer qui est devenu Satan ici. Mais nous apprenons dans ce texte que Satan avait une grande partie des richesses. Il avait des pierres sur lui, de l'or, de l'argent, etc. Si vous voulez reprendre plus en détail ce texte d'Ézéchiel 28, faites-le et vous verrez que c'est réellement ce dont il s'agit ici. Quand les anges ont été déchus et séparés de Dieu, alors Satan a réorganisé son gouvernement et il a trouvé un esprit qui s'appelle Mammon, et il a dit à Mammon, toi, tu vas être prince, non pas sur la France, non pas sur Montpellier, non pas sur les États-Unis, mais partout où l'argent va circuler, tu vas être prince. Et ta mission sera d'utiliser les richesses pour gagner le cœur des humains de façon à les détourner de Dieu. Ça, c'est ta mission. Utiliser les richesses, le manque ou le trop, mais tu les places dans une situation où leur cœur se détourne de Dieu. Soit tu les mets dans la misère et ils se révoltent contre Dieu, soit tu leur donnes une abondance que leur intégrité de cœur ne peut plus supporter, ce qui fait qu'ils pourront se passer de Dieu, mais tu utilises les richesses pour une chose, les détourner de Dieu. Par la pauvreté, par la richesse, peu importe, mais utilise ce domaine pour les séparer de Dieu. Et Mammon est donc cette puissance spirituelle qui exerce sa mission sur le domaine des richesses, qui vise une chose, détourner les humains de la dépendance de Dieu. C'est pourquoi, quand la Bible nous dit dans Éphésiens 5, 5, aucun cupide, c'est-à-dire ceux qui aiment l'argent, d'une façon exagérée, ceux qui ont confiance en l'argent plutôt que confiance en Dieu, aucun cupide, c'est-à-dire idolâtre, idolâtre. Pourquoi idolâtre? Pourquoi l'argent nous ferait que quelqu'un peut être appelé idolâtre? Ben simplement parce que l'argent, derrière l'argent, il y a une puissance spirituelle. Notre relation à l'argent, c'est plus, ou l'attachement à l'argent, c'est plus qu'un défaut. C'est une idolâtrie. C'est une adoration. Et c'est pourquoi la question de l'argent se trouve au cœur de l'adoration. Quand on arrive au moment des dîmes ou des offrandes dans le culte, certains pensent que, ah mince, on passe du divin, du spirituel, à l'humain. On est en plein divin. On est en plein cœur de l'adoration. Parce que ce domaine des richesses parle plus fort de l'état de notre cœur que plein d'autres domaines, que tout autre domaine, on pourrait dire. L'attachement à l'argent révèle notre culte, notre adoration. C'est pourquoi l'idolâtrie ou la cupidité est appelée une idolâtrie ici, Colossiens 3:5, la cupidité qui est une idolâtrie, à cause de ces choses, la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Alors j'aimerais vous poser une question ce matin. Est-ce que Dieu peut te faire confiance au point de te rendre prospère? Est-ce que Dieu peut te faire confiance au point de te rendre riche? Eh oui, parce que vous savez, dans la pauvreté, Proverbe 30, verset 8, je crois, nous dit « Ne me donne ni pauvreté ni richesse, de peur que dans la pauvreté je m'attaque à mon Dieu et de peur que dans la richesse je me mette à oublier mon Dieu. » Mais je voudrais vous dire une chose, Dieu veut et a toujours voulu de tout temps que l'homme, que l'être humain soit riche. Dieu veut que tu sois riche. Dieu veut que tu sois prospère. Dieu n'a pas créé le couple humain dans un environnement désertique, mais dans un environnement de grande abondance. Et Jésus nous dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et 3 Jean, verset 2, nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons pauvres. Dieu a créé les humains riches. Dieu nous veut riches. Mais Dieu peut-il te faire confiance au point de te rendre riche? Parce que l'argent est au cœur de la question d'adoration. Et nous entendons tant de personnes dire, mais ah, si j'étais riche, des chrétiens, si j'étais riche, tu verrais un peu ce que je donnerais à l'église, tu verrais un peu ce que je ferais pour le royaume de Dieu. Et le jour où ça vient, le cœur ne pouvait pas tenir là-dessus. Et c'est pourquoi je dis, Dieu veut te rendre riche. Mais c'est la question de ton cœur. Est-ce que Dieu peut te faire confiance au point de te rendre riche? Parce que Dieu voudrait que tu sois riche. Genèse 1, 28, il a donné domination sur toute l'œuvre de ses mains. Par la trahison de Dieu, l'être humain perd son héritage. Et donc, Satan vient vers Jésus, le Fils de l'homme, pour lui dire, tu sais, je te donnerai la gloire de ces royaumes, parce qu'elle m'a été livrée au jardin d'Éden par la chute. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Satan est prêt à rendre riche quiconque est prêt à lui offrir son adoration. Et tu sais, pour être adorateur de Satan, il suffit pas simplement de dire, oh Satan, je t'adore. Non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus fin que ça. C'est notre attitude de cœur avec l'argent peut tout simplement nous fermer à la dépendance de Dieu. Dieu, je sais que tu es vivant. C'est sympa que tu sois dans le décor, en toile de fond, mais moi, je peux me débrouiller sans toi. Et ça, c'est un culte à Mammon, c'est-à-dire au prince spirituel de l'argent. Donc l'argent est une question capitale parce qu'il est l'enjeu d'une adoration et d'un conflit spirituel. Ça dépend ce que tu aimes. Hein. Ici, tu as un petit truc euro, je t'aime. Hein. Et ici, Jésus t'aime et veut t'attirer à lui. Et tu es l'humain qui est au milieu, l'enjeu d'un conflit spirituel. Et ton argent montre que mon argent, mon attitude, ma relation à l'argent montre que nous sommes dans un enjeu, d'une question capitale, l'adoration par nos finances. C'est pourquoi nous croyons qu'une des marques de qualité financière, c'est aussi des offrandes généreuses, la libéralité. Et que nous devons aussi grandir dans ce domaine de sainteté comme dans chacun des autres domaines. Derrière la possession des richesses se tient une adoration, un service spirituel. Jésus, bien sûr, a refusé de recevoir les richesses de Satan parce qu'il voulait des mains propres pour les lui donner. Jésus, peu importe la richesse qu'il avait, ce qui comptait plus que tout, c'était de qui venait cette richesse. Et Jésus a reçu toute richesse, Apocalypse 5, 12, à lui, à l'agneau de Dieu, la richesse. Tout appartient au Seigneur Jésus aujourd'hui, mais il ne voulait pas recevoir cette richesse de quelqu'un qui avait les mains sales, c'est-à-dire le diable. Et c'est là l'enjeu que nous avons chacun dans nos vies. Dieu veut nous rendre riches par ses chemins, par ses moyens. Mais ne soyons pas prêts à accepter toute richesse comme elle vient, parce que chaque fois que je reçois de l'argent, derrière toute circulation de l'argent que je reçois ou que je donne, il y a un acte d'adoration. L'enjeu est là. L'enjeu de cette question capitale se trouve sur l'adoration. Le choix n'est donc pas pour nous entre la pauvreté ou la richesse, mais entre Dieu ou Mammon. Le choix n'est pas pour nous autre chose qu'un état d'esprit à l'égard de l'argent. C'est quoi l'état d'esprit ? Comment tu sais si tu sers Mammon ? Jésus nous a dit, ne vous inquiétez, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, c'est pourquoi ne vous inquiétez pas. Ça veut dire que l'inquiétude est bien souvent une marque de notre service, de notre adoration à Mammon. Et là, il faut lutter. Qui a besoin de lutter contre l'inquiétude dans le domaine financier de temps en temps ? Vous avez levé le doigt parce que vous avez vu que j'ai levé le doigt, mais pas avant moi. Hein. Je ne vais pas vous demander la fraude, mais la fraude, c'est une des marques. C'est ça, cet état d'esprit. La convoitise, l'auto-gratification, ça veut dire c'est par mes mérites. Regarde un peu ce que j'ai fait dans mon travail. Vous savez, il y a quelqu'un qui n'est plus parmi nous aujourd'hui, que j'ai connu aimant le Seigneur avec passion, et je le dis avec des larmes au fond de mon cœur, des sanglots qui sont au fond de mes entrailles quand je pense à lui, à cette personne, et qui au début était une personne qui était prête à faire n'importe quel travail parmi nous, et qui avait vraiment un dévouement, une adoration pour le Seigneur. Et puis, Dieu a pris le risque de le faire prospérer. Et j'avais un peu peur, parce que une de ses premières remarques, c'était, tu sais, désormais, on ne tartine plus notre pain avec la même confiture. Le jour où j'ai entendu cette phrase, j'ai dit, oups, toi t'es en danger. Et puis à un moment donné, alors qu'il avait suffisamment d'argent, on lui a proposé encore plus, et parti dans encore plus. Et puis c'était la débâcle dans sa vie. Il a mis par terre une famille, une vie, une foi, un avenir pour lui-même à servir dans une église heureuse et qui prospère. Il a peut-être prié, il a peut-être été là au moment où on se met pour voir ce que l'on voit aujourd'hui et ce qu'on va voir dans les années à venir. Mais l'argent a pour enjeu l'adoration, l'auto-gratification. Mais c'est par mes mérites. Tu as vu ce que j'ai réussi à faire et c'est triste. L'inquiétude, la fraude, l'avarice, ça c'est des signes de cet état d'esprit. Par contre, la dépendance, la reconnaissance, ça c'est l'état d'esprit d'un cœur qui sert Dieu avec l'argent. Être grincheux, c'est pas la marque d'un cœur qui sert Dieu. Donc la reconnaissance, l'intégrité, la confiance, la générosité, ça c'est la marque d'un cœur qui adore Dieu. On va regarder rapidement ce que la Bible nous dit concernant l'argent. Presque tous les livres de l'Ancien Testament parlent des finances, de l'argent. Il nous est dit qu'Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il nous est dit aussi que c'est lui le père de la dîme. Certains disent, mais la dîme est venue au moment de la loi. J'oserais jamais étaler mon ignorance biblique comme ça. 400 ans séparent Abraham de la loi. Abraham a donné la dîme, Isaac a donné la dîme, Jacob a donné la dîme. Ces principes-là datent bien avant la loi. Néanmoins, toutes les prescriptions qui sont venues ensuite avec la loi, les prescriptions et les promesses de la loi, c'est-à-dire les commandements comme les promesses, nous parlent beaucoup de la question d'économie et d'argent. Quand vous étudiez un petit peu la loi, vous voyez qu'il est parlé des offrandes, des dîmes, des aumônes, etc., mais aussi le jubilé, ça veut dire la répartition des richesses, mais aussi le fait de prendre soin des plus pauvres, etc., etc. Un grand nombre de données économiques sont précisées dans les prescriptions de la loi, mais aussi des promesses. L'Éternel, Deutéronome 28, verset 12, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, et il enverra la bénédiction sur tout le travail de tes mains. Alors tu prêteras à des nations et tu n'emprunteras point. » Et c'est vrai que les patriarches, comme la loi, comme les prophètes dans la Bible, nous montrent, nous parlent de l'argent abondamment. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué quelle proportion de la Bible concerne la dimension de l'argent, mais c'est très important. Le message des prophètes, en gros, c'est Dieu vous avait dit de vivre dans l'abondance et la justice, la reconnaissance, mais vous vous êtes éloigné de ça et vous êtes en train de dire, c'est par nos mérites, on a réussi nous-mêmes, etc., etc. Alors Dieu envoie les prophètes et tous les prophètes parlent de cette question-là. Dieu vous a fait prospérer dans le pays promis, mais vous avez une attitude avec votre argent qui fait que, ah, ça c'est à moi, et que vous commencez à oublier Dieu et à ne plus le servir avec reconnaissance. Et le prophète Amos va être le prophète qui rappelle combien l'attachement aux richesses et l'exploitation du pauvre déplaisent à Dieu. La plupart des écrits des prophètes contiennent un quart à un tiers de leur message concernent le domaine des finances et rappellent l'adoration de Dieu par les finances, la reconnaissance et la pratique de la justice. Agée, Zacharie, Malachie vont rappeler le peuple à placer Dieu en premier dans leurs finances. Agée va dire, vous vous bâtissez des belles maisons, mais regardez l'état de la maison de Dieu. Vous êtes en train de penser à vous faire vos belles villas et vous les avez et c'est bien, Dieu vous bénit. Mais pourquoi la maison de Dieu est dans un tel état alors que vos maisons sont l'objet de votre préoccupation majeure? Vous m'entendez à Montpellier en 2005? Vous m'entendez à Montpellier en 2005? Dieu dit, tant que ma maison n'est pas devenue la priorité, je ne pourrai pas bénir totalement le travail de vos mains. C'est ce qu'il dit dans le prophète Agée, et je crois que c'est ce qu'il nous dit encore aujourd'hui. Malachie nous rappelle ceci, « Depuis le temps de vos ancêtres, vous vous détournez de moi. Revenez à moi. » Vous dites, « Mais comment devons-nous revenir ? Un homme peut-il voler Dieu ? Pourtant vous me volez. » Et vous dites, « Mais en quoi t'avons-nous volé ? Lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes, vous êtes sous une malédiction, parce que tout ce peuple, vous me volez. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité, dans le trésor du temple, pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon, mettez-moi à l'épreuve, et vous verrez bien si de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, et je ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. » Ça, c'est Dieu qui l'a dit. Vous savez, parfois, j'ouvre ma Bible, bien ouverte devant Dieu, je dis, « Seigneur, je ne sais pas si de là-haut tu peux lire, mais en tout cas, si tu ne peux pas, je vais te lire ce que ta promesse a déclaré. » Et tu as dit, « Mettez-moi à l'épreuve. » Alors tu peux venir devant Dieu, pas avec un cœur contestataire, mais avec un cœur qui sait que Dieu est un Dieu de parole. Dieu est une personne de parole. Et tu peux dire, « Seigneur, je vais prendre au sérieux ta parole et je te demande de la prendre au sérieux. » C'est un contrat entre nous, ça s'appelle « Nouvelle Alliance ». Ancienne alliance, nouvelle alliance. C'est une alliance, un contrat. Tu as dit ceci. La clause de l'alliance, c'est que si j'amène toutes les dîmes dans la maison de Dieu, tu vas éloigner celui qui menace. Tu vas ramener la bénédiction en abondance dans ma vie. Tu l'as dit, mon Dieu. Alors si la parole de Dieu est vraie, et nous croyons qu'elle est vraie, amen. Oh, vous avez manqué une occasion de dire qu'elle était vraie. C'est pas grave, vous en aurez une autre bientôt. Hein? Si la parole de Dieu est vraie, et elle est vraie. Alléluia. À ce moment-là, je peux venir devant Dieu et dire, « Seigneur, je vais pratiquer ces paroles-là. » Un homme, en 1900, vous savez, il y a une grosse, qu'on appelle la grosse dépression, grande dépression aux États-Unis. Un homme aidait tous les pauvres. Et chaque fois qu'il les aidait pendant cette grande dépression, des gens qui avaient été dans le monde des affaires, etc., il leur posait la question suivante. « Est-ce que, au temps où tu étais dans l'abondance, tu donnais ta dîme à Dieu ?» Et il dit, « Pas un !» De tous ceux qui avaient fait faillite pendant la période de grande dépression, m'a répondu, oui, je donnais ma dîme à Dieu. Et pour moi, ça m'a marqué. Oh, il y a 20 ans que j'ai lu cette histoire, mais ça m'a marqué. C'est-à-dire, au jour de la détresse, au jour de la famine, quelle assurance nous avons pour venir dire à Dieu, Seigneur, j'ai respecté la loi spirituelle qui dit que quand nous donnons nos dîmes au Seigneur, toi, de ton côté, tu t'engages à la bénédiction. Dieu est un Dieu de parole. C'est pourquoi la Bible nous dit aussi, honore l'Éternel avec les prémices de tous tes revenus. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et c'est vrai, là vous avez un petit garçon qui a son truc giving. Donc lui aussi fait son giving day. Et il met sa dîme. Et quelle joie j'ai eu de voir nos enfants. Et je vous assure, enseignez même vos enfants sur leur argent de poche, sur les petits cadeaux qu'ils ont quand à l'anniversaire, ils ont un billet à Noël ou quoi. Mais enseignez-leur à donner leur dîme. Vous savez quoi ? J'aimerais que parfois les dîmes soient levées chez les enfants là-bas. Et j'ai dit, mais Philippe, t'es cupide. Mais non, je m'en fiche de la somme qui sera levée. Peut-être on va ramasser peut-être 5 euros les jours de prospérité au début. Mais je vous dis une chose, ça va former chez nos enfants une mentalité dans laquelle c'est pas là-bas c'est gratis, t'arrives ici, tu payes. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est tout au long, nous reconnaissons que tout ce que nous t'offrons, nous le recevons de ta main. Et peu à peu, que ce soit chez les enfants, chez les ados, c'est avec bonheur que nous venons donner notre dîme. Et je ne vous demande pas de donner une pièce à votre enfant pour qu'il ait quelque chose à donner le dimanche. Ne nous refaites pas le coup de la messe que j'ai subi. Simplement, sur ce qu'eux ont reçu, enseignez-leur à donner 10% au Seigneur. et à tester que la bénédiction de Dieu vient. Honore le Seigneur avec les prémices de tes revenus et ça honore Dieu. Jésus est l'argent. Est-ce que vous savez que Jésus a parlé davantage de l'argent que du ciel dans les évangiles? En réalité, selon Charles Swindoll, qui est un théologien très respectable, un sixième des évangiles concerne les questions des finances et de la gestion. Un sixième, un tiers des paraboles concerne la question des finances et de la gestion. Alors quand parfois on me dit « Oh là là, mais à clé, vous en parlez tous les dimanches. » Oui, mais tu as vu comment Isabelle l'a bien fait ce matin en 3 minutes? On le fait courtement. Je te dis, si jamais tu avais suivi Jésus, laisse-moi te dire, ça aurait été mieux que ça encore. Ou pire, ça dépend comment tu le vis. Mais lui, c'était un tiers de ses paraboles concernaient cela. Un sixième des évangiles parle de l'argent. Jésus n'était jamais à court. Et il était même soutenu par des femmes aisées. Luc 8 nous dit qu'il y avait Suzanne, la femme de l'intendant, Marie de Magdala et plein d'autres femmes qui le soutenaient par leurs biens. Il avait une équipe de fundraising, de bailleurs de fonds autour de lui. Jésus avertit des dangers de l'argent. Et il dit, attention, prenez garde que vos cœurs ne s'appesantissent sur l'argent, les excès du manger et du boire. Puis Jésus, avec l'argent, n'était pas gêné. Quand les gens venaient donner, tout à l'heure on va avoir un moment pour l'offrande, le Giving Day qui commence, Jésus aurait fait ça. Moi je suis encore un peu timide, je me soigne, donc dans quelques temps j'espère ne pas l'être, mais Jésus aurait fait ça. Il aurait fait mettre une table ici et il aurait regardé. C'est incroyable ce que Jésus faisait. Ou alors s'il n'avait pas dit Christian, il serait tourné vers les disciples et a dit, Christian, super léger ce qu'il a donné. Mais t'as vu le chèque gras qu'il a fait? Oui, mais il est tellement riche dans la foi. Il est tellement riche que c'était tellement moins que... C'est qui est moins riche? Allez, on va jouer. On joue, on est en plein délire. Que Serge. Serge, qui est la petite veuve, qui est venue mettre sa petite pièce là-dedans. Et Jésus regardait et dit, « Oh, la veuve Serge, elle a vraiment donné davantage que le gros Christian qui est venu ici pour donner un chèque. » Simplement, Jésus avait le toupet. Pourquoi? Parce que pour lui, l'argent, ce n'était pas l'argent. C'était le cœur qui comptait. C'était l'adoration qui comptait. Et c'était chaque fois un acte d'adoration qu'il regardait. Pour lui, c'était la même chose quand quelqu'un donnait superficiellement que quand quelqu'un priait du bout des lèvres lors d'un culte. Par contre, un jour, quand il voit cette femme dans Matthieu 26 qui vient répandre le parfum qu'elle a économisé toute sa vie pour le jour de son mariage, et maintenant elle croit, elle pense qu'elle ne se mariera pas, et elle a eu une vie très difficile, une vie probablement de prostituée, et elle vient, et au pied de Jésus, elle pleure et elle répand le parfum qu'elle avait économisé par toute une vie de galère, et elle répand ça sur Jésus pour dire, Seigneur, même si je n'ai plus un mari, j'ai eu tellement de vie de débauche, mais maintenant je sais une chose, je m'attache à toi totalement. Et les disciples disent, mais quelle perte, quel gaspillage, on aurait pu vendre tout ça, ça nous serait fait pas mal de soirées de michoui, puis on aurait donné la dîme aux pauvres. Hein. Mais Jésus dit, non, vous avez toujours les pauvres avec vous, mais elle a compris quelque chose. Elle a compris qu'on ne donne pas juste aux pauvres, mais elle a compris que l'adoration implique l'offrande. Et elle est venue me donner quelque chose qui lui coûtait beaucoup. Et Jésus dit, on racontera dans le monde entier en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait, comme un exemple d'adoration par les finances. Je vous dis, on n'a pas fini d'apprendre au niveau des finances. Mais qui sait si un jour, pendant qu'on est dans l'adoration, dans la louange, on n'attend même pas le moment où on présente les offrandes, et juste par amour pour Dieu, tu fais un chèque et tu viens le poser sur l'estrade, juste par amour pour le Seigneur, et un gros chèque, un chèque qui représente comme l'acte de cette femme ici, pas un chèque de pitié, je ne te demande pas de le faire chaque semaine, mais conduit par la passion que le Saint-Esprit peut mettre dans nos cœurs pour Jésus, comme cette femme l'a fait, ce serait tellement merveilleux. Par sa vie et sa mort, Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Ça veut dire qu'il a pris la malédiction de pauvreté sur lui pour que nous devenions riches. Dieu veut que nous soyons riches. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu sois riche. Tu sais, c'est pas rien cette question. C'est pas un petit jeu de rhétorique d'un prédicateur. C'est une des raisons de la mort de Jésus. Jésus est mort pour prendre sur lui la malédiction de pauvreté, afin que par cela nous soyons enrichis. Donc on n'est pas en train de parler d'un truc léger, on n'est pas en train de parler de quelque chose de « bon, simplement c'est un style ». Non, on est en train de parler des fruits de la mort de Jésus. Christ a payé pour notre pauvreté en souffrant sur la croix. Notre pauvreté l'a fait souffrir, son sang a coulé pour que nous devenions riches. Son sang a coulé pour que Satan n'ait plus le droit de nous toucher, pour que quand nous faisons circuler de l'argent, Mammon s'éloigne de nos vies. Que notre argent, notre or, notre cœur soit consacré au Seigneur totalement, délivré de toute influence de Mammon, parce que l'argent se trouve au cœur de l'adoration. Et Jésus, le Fils de Dieu, a payé de sa vie à la croix pour cela. Jésus est né dans une étable de pauvres, mais Ésaïe 53,9 nous dit qu'il a été enseveli dans un tombeau de riches. Et je crois que réellement c'est quelque chose qui nous amène à voir Jésus autrement. Souvenons-nous, l'argent est au cœur de ce qui a motivé la crucifixion, la trahison de Jésus. Judas a trahi Jésus et Jésus a été estimé pour 30 pièces d'argent et le prophète Zacharie annonçait cela. Ils m'ont estimé 30 pièces d'argent, ils ont jeté cet argent dans le champ du potier. C'est le champ que va acheter Judas, là où il va se suicider après. Mais c'est 30 pièces d'argent. L'argent est au cœur même de la crucifixion de Jésus. C'est encore l'argent. Quand Jésus est ressuscité, vous vous rappelez ? Il est ressuscité et les soldats disent « Oh là là, je sais pas comment ça se fait, on a essayé de garder le terrain, mais on dit qu'il est sorti du tombeau, la pierre a été roulée. Alors qu'est-ce qu'ont fait les sacrificateurs ? Ils sont venus les payer. Et ils ont dit « On vous paye. » Et dites à tout le monde que pendant la nuit, pendant que vous dormiez, vous êtes assoupis, les disciples sont venus dérober son corps. L'argent a fait taire la bonne nouvelle. L'argent, qui est derrière ça ? Mammon. Quelle est la mission de Mammon ? D'utiliser toujours l'argent pour détourner les hommes de Dieu. Par la richesse, par la pauvreté, par les mensonges, par les pots de vin, par les trahisons, par ce que tu veux. Mais sa mission est d'utiliser l'argent comme un moyen de se détourner de Dieu. Et le Seigneur a racheté par la croix le domaine de l'argent pour utiliser l'argent comme un moyen de s'attacher à Dieu. C'est pourquoi dans les églises, au moment où on passe parfois les corbeilles, les gens sont un peu crispés, ils attrapent des coliques, commencent à être mal à l'aise, se tournent sur leurs chaises. On dirait qu'ils sont pudiques, comme si les personnes qui passent les corbeilles étaient dévêtues et on n'ose pas les regarder, etc., etc. Alors qu'en réalité, on est encore gêné. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas laissé passer la rédemption de la croix qui vient ici pour nous donner une toute nouvelle relation avec l'argent. L'Église et l'argent, l'Église primitive vivait dans l'abondance, ils partageaient. Mais ce qui est quand même étonnant, vous savez ce qui s'est passé quand le Saint-Esprit est venu ? Acte 2-4, ils se sont mis à parler dans de nouvelles langues, le feu est venu sur eux, ils ont parlé de nouvelles langues. Acte 2-44, ils ont pris leurs biens, ils sont venus tout mettre aux pieds des dirigeants de l'Église pour dire « notre vie économique doit changer ». Il faut qu'on s'organise autrement. Le Saint-Esprit, la Pentecôte, n'est pas simplement quelque chose qui te fait parler dans de nouvelles langues, mais la Pentecôte, quand le feu de Dieu vient, certains disent « je veux un baptême de feu ». En réalité, beaucoup, quand veulent un baptême de feu, ils veulent une expérience sensationnelle qui va les secouer pendant une heure et leur faire du bien, autant que quand ils prenaient une piqûre d'héroïne ou un joint de pavot ou une bonne cuite. En fait, c'est ça le baptême de feu que beaucoup demandent. Le baptême de feu, bibliquement parlant, les langues de feu sont venues. Oui, ils ont parlé dans des langues nouvelles pour donner gloire à Dieu, pour dire d'excellentes actions de grâce que les gens autour d'eux comprenaient. Mais aussitôt après, leur vie était tellement touchée qu'ils ont vu le cœur de leur adoration n'était pas à Dieu. Et ils sont venus avec ce qui représentait un obstacle. Mes richesses, mon argent, c'est ça ce qui me sépare de Dieu. Le feu est venu toucher jusque dans les racines même de leurs finances et de leur attachement à l'argent. Et la première église est une église qui, tout de suite, à la Pentecôte, est touchée au cœur de son adoration par les finances. Et toute la vie économique en est transformée ici. Je ne dis pas qu'il faut tous vivre en communauté, mais je dis que nous avons tous besoin que le Saint-Esprit nous touche dans notre attachement à l'argent, parce que c'est là le cœur de l'adoration. Et les premiers chrétiens prenaient soin des pauvres à ce moment-là, mais aussi des veuves. Les veuves, dans la première église, étaient inscrites sur un rouleau, c'est-à-dire sur un registre, et elles devaient se consacrer au jeûne et à la prière. Il y avait toujours des veuves dans l'église qui jeûnaient et priaient. Et il y avait les ministères, et que la Bible nous dit que les anciens qui dirigent bien soient soutenus sur tout ce qui travaille à la prédication, qu'ils soient jugés dignes d'un double honneur ou d'un double salaire. 1 Corinthiens 9, 14, « Car le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. » Galates 6, 6, « Que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. » Et c'est pourquoi l'Église pouvait se développer. Et il y a des enseignements dans presque chaque épître sur la question de l'argent. Mais on va essayer de passer un tout petit peu plus loin. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé dans ta vie. Mais écoutez ce que simplement ces deux versets de Timothée nous montrent, pourquoi parfois on est ambigu avec les questions des finances. Premier passage de Timothée, 1 Timothée 6. Écoutez bien là s'il vous plaît. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine, la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi, se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Dans l'Église, on trouve ceux qui insistent sur ce passage-là. Attention, l'argent est dangereux. Oui, l'électricité aussi, pourtant tu l'utilises. Pourtant, l'électricité peut être mortelle si tu l'utilises mal. L'argent aussi, si tu l'utilises mal. Donc, il y a ceux qui disent, attention, l'amour de l'argent est racine de tous les maux. Attention, attention, quelques-uns sont jetés dans bien des tourments. Certains veulent s'enrichir. Pourquoi Dieu nous voudrait riches? Alors que Paul nous dit, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, etc. Mais regardez ce que le même Paul écrit à Timothée dans le même passage, quelques versets plus loin. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, par leur attitude de cœur. De ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Quand nous avons des riches dans l'Église, ils ne sont pas là pour que tout le monde les dépouille. Ils sont là pour jouir de leur richesse en rendant gloire à Dieu. C'est la volonté de Dieu qu'il y ait des riches parmi nous. C'est la volonté de Dieu que nous devenions riches, qui nous donne toutes choses avec abondance pour que nous en jouissions. Mais recommande-leur d'avoir la libéralité, la générosité, s'amasser ainsi un trésor pour l'avenir. Voyez, ce passage nous dit à la fois, l'argent peut être dangereux, mais en même temps, Dieu veut que vous soyez riches. Et il voudrait pouvoir vous faire confiance au point de pouvoir vous libérer ces richesses. Il voudrait nous faire confiance à ce point-là. Et c'est pour ça qu'il y a quelques paroles qui nous mettent dans la confusion, l'ambiguïté, comme quand Jésus dit, « Ah, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Tout le monde cite cette parole-là. Alors comment, Philippe, tu peux dire que Jésus nous veut riches alors qu'il dit qu'il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux? Jésus dit ça dans un contexte d'un homme dont la richesse l'a éloigné de Dieu. C'est exactement l'influence de Mammon dont il parle ici. Cet homme riche voulait suivre Jésus. Et Jésus lui dit, « Ok, mais ton problème, tu dois être touché dans le fond de ce qui fait ta valeur dans ta vie, ton argent. Donne ton argent. » Et il dit, non, non, non. Et il s'en va. Et Jésus dit, il est difficile à quelqu'un qui est riche. C'est pour ça que Dieu doit nous faire grande confiance pour nous rendre riches. C'est peut-être plus facile. Le test de la pauvreté est douloureux, mais combien moins difficile que le test de l'abondance.